créer, charbonner,
job,
bûcher, gagne-pain,
chagrin,
turbiner,
tôle,
urbain,
gagner,
plancher, AVS,
créer,
charbonner, infirmière,
tôle,
travailleur du sexe,
peigner,
preneuse de son,
exécuter,
ouvrier agricole.
Plancher,
quel que soit notre rapport au travail, chacune et chacun d'entre nous a une expérience à partager sur les faits et méfaits du turbin. C'est cette expérience que nous souhaitons explorer. Observer le monde par le prisme du travail et ses conditions d'exercice. Le principe de l'émission est simple. Un même questionnaire pour différentes expériences au travail. Une trame de questions inspirée des enquêtes ouvrières ou enquêtes conscientisantes, qui donne à ces entretiens un aspect à la fois universel et singulier. Une même trame qui parle d'organisation du travail, de hiérarchie, d'outils, de solidarité, d'évaluation, de sens, d'épuisement. Une trame qui mêle vécu et analyse.
Bonjour, vous êtes sur Canal Sud 92.2 et c'est le magazine. Et donc c'est la chronique travail, comme les mardis maintenant, de midi à 13h. Aujourd'hui, on est avec Camille qui est bibliothécaire. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, donc Camille, tu es bibliothécaire. Est-ce que tu me... Quel est ton taf? C'est trop tard. Ça fait combien de temps que tu es bibliothécaire?
Je suis bibliothécaire depuis le mois de mai dernier. J'ai commencé par un remplacement et maintenant j'ai un contrat en CDD d'un an depuis le mois de septembre.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire dans quel genre de ville tu travailles, dans quel genre de structure?
Je travaille à la campagne, dans une médiathèque qui fait partie d'un réseau de lecture qui rassemble une vingtaine de médiathèques. Et notre tutelle, c'est l'intercommunalité du coin.
D'accord. Est-ce que tu as été formée pour ce travail?
Oui, l'année dernière. J'ai suivi une formation avec l'Association des bibliothécaires de France, qui est dispensée à Toulouse. C'est une association qui... allie une formation assez théorique avec un bénévolat d'un an en médiathèque.
Donc, tu veux dire que tu es arrivée dans une formation l'année dernière d'un an qui te permet aujourd'hui d'être bibliothécaire. Est-ce que cette formation nécessitait un niveau minimal d'études pour être accessible ou...
Il me semble que l'accès était... dépendait d'un CAP, je crois. C'était un niveau assez bas d'études.
D'accord.
Enfin, c'est... ouais.
Ok. Et c'est une formation qui peut être prise en charge par Pôle emploi, par exemple, ou financée par des employeurs ou...
Oui, ça peut D'accord. être prise en charge par Pôle emploi. Okay. Ça a été pris en charge par ma mère.
C'est une autre type de prise en charge. Donc, ton employeur est une intercommunalité.
Mm-hmm.
Est-ce qu'en général, c'est les intercommunalités qui gèrent les bibliothèques?
Pas forcément. Ça peut être une interco, ça peut être une commune aussi. Ça dépend de qui prend la compétence de lecture publique sur le territoire.
D'accord.
Est-ce que donc, tu as intégré, donc j'imagine que tes collègues sont de la fonction publique territoriale?
Tout à fait.
D'accord, donc toi tu es contractuel aujourd'hui, c'est ça?
Moi je suis contractuel et on est plusieurs à être contractuel.
D'accord.
Donc, combien d'heures tu travailles par semaine? D'accord. Un mi-temps sur la base de 35 heures?
Oui, c'est 17h30 par semaine.
D'accord. Et pour ce temps de travail, est-ce que tu as choisi ce temps de travail?
Non, c'est un poste qui se libérait en fait dans ce réseau de lecture où j'exerçais mon bénévolat. Et non, c'est pas moi qui ai choisi, mais c'est pas mal.
D'accord. Est-ce que tu fais des heures supplémentaires?
Oui, il m'arrive d'en faire quand on a des événements le soir ou parfois on participe à l'organisation d'un festival, de choses comme ça. Donc j'ai des heures supplémentaires qui ne sont pas payées mais qui sont rattrapables sur le temps de travail.
Ok. Tu fais y compris du coup des heures de nuit?
Oui, je fais des heures de nuit qui sont rattrapables comme si c'était des heures de jour.
D'accord.
Ouais.
Est-ce que tu as une idée du nombre de congés payés que tu as par année?
J'ai pas encore trop étudié la question, mais je pense que c'est 5 semaines de congés payés.
D'accord, sur le type de base, enfin sur le truc de base, quoi.
Oui, oui.
Et ton contrat, c'est un CDD, ce que tu nous as dit.
Oui.
Est-ce que c'est possible d'enchaîner les CDD dans les bibliothèques ou est-ce que la prochaine étape, c'est censé que tu deviennes fonctionnaire stagiaire?
Disons qu'on est fortement encouragé à passer les concours pour être fonctionnaire. Après, j'ai des collègues qui ont été... qu'on enchaînait 2 CDD, par exemple, de 3 ans. Donc, c'est possible. Mais il y a quand même une sorte de parcours. On peut, par exemple, bénéficier de formation en vue de passer les concours. Et on nous encourage à faire ça.
Que vous pourriez passer en interne, du coup?
Non, je crois qu'on les passe en interne quand on est déjà fonctionnaire et quand on veut changer de grade.
D'accord.
Il me semble que c'est ça.
Après, donc là, juste, tu passerais le concours classique, normal, accessible à tout le monde.
Oui, d'accord. Il me semble que c'est ça.
D'accord.
Et tu as une idée de nombre de personnels qui bossent dans les bibliothèques et qui n'ont pas de concours?
Non.
Ouais.
Non.
Toi, par exemple, dans tes collègues, c'est une grosse proportion à ton avis ou...
J'ai l'impression que c'est moitié-moitié.
C'est moitié-moitié?
Oui, il me semble. Mais...
Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type, ou s'il y a plusieurs journées types dans ton travail?
Alors,
plusieurs journées types.
Oui, je suis 2 journées types, en fait. Je travaille sur 3 jours. Pendant 2 jours, je suis au service public, donc je suis à l'accueil du public, à la banque de prêts. Là, je renseigne les gens, j'enregistre les prêts, les emprunts, les retours. Je fais du rangement, j'accompagne un petit peu les lecteurs qui veulent l'être. Et sinon, j'ai un jour de travail aussi par semaine.
Donc ça, par exemple, c'est dans une grosse... Il y a combien d'habitants dans la ville où tu travailles?
Entre 500 et 600.
D'accord.
C'est un village.
Combien de gens à peu près se présentent dans la médiathèque où tu travailles chaque jour, quand tu es au service de prêt?
C'est très fluctuant, mais parfois ils sont 20, parfois ils sont 40, ça dépend.
Est-ce que ça arrive qu'il y ait pas mal de gens en même temps, que ce soit un peu speed ou plutôt c'est tranquille?
Ça peut être speed quand on est seul à l'accueil, ce qui arrive assez rarement. Normalement, on est 2. À l'accueil, mais quand un collègue est en arrêt, par exemple, je suis toute seule. Et c'est speed, mais c'est très gérable. Et on a aussi beaucoup de bénévoles qui nous aident. Ils ont vraiment une place importante, en fait, au sein de la médiathèque. Et quand on est tout seul à l'accueil, souvent, on sollicite un bénévole qui vient quelques heures nous aider, au moins pour le rangement.
Et donc, des bénévoles qui occupent les mêmes tâches que vous en tant que salarié?
Pas exactement les mêmes tâches, mais en tout cas qui s'occupent du rangement, oui. Donc ça, c'est une des tâches qu'on effectue. Et après, ils participent beaucoup aux animations. Si y a un club de tricot, par exemple, ou un club de lecture, etc., c'est les bénévoles qui sont sollicités pour l'organiser. Et c'est elles qui sont responsables de ça.
D'accord. Il y a un club de lecture, ça je vois bien, mais un club de tricot en bibliothèque.
Eh oui, tu peux, tu peux amener ton tricot et tricoter avec les copines ou te faire des copines ou des copains sur place.
Avec, par exemple, une diffusion d'un livre audio pendant ce tricot, pas du tout?
Pas du tout, mais ça peut être une bonne idée, oui. Mmh. Oui, tout à fait.
En tout cas, cette bibliothèque, elle est capable d'héberger des associations, des activités...
Des associations, pas encore.
D'accord.
Mais on héberge aussi quelqu'un qui vient en télétravail, par exemple, les jours où on est fermé au public. Quelqu'un nous a sollicité pour venir télétravailler, donc on lui ouvre la médiathèque. Voilà, elle travaille sur place. Et après, on est assez en demande de ça. Si des lecteurs proposent des choses, on essaye d'aider à l'organisation.
On se rapproche de l'idée du tiers-lieu, là. Mais bon, on en parlera plus tard, j'imagine.
Tout à fait.
Et donc, tu disais qu'il y avait cette première journée type qui était l'accueil, service public. Mm. Tu as un deuxième type de journée type.
Oui, le jour de fermeture au public, en fait, j'accueille des classes. J'accueille deux classes le matin et une classe l'après-midi. Ça peut être des classes de primaire ou aussi des groupes de jeunes mineurs isolés avec leurs éducatrices. Voilà. Et donc, j'organise des animations sur l'année avec les écoles.
Est-ce que tu peux nous raconter une animation que tu fais, soit avec les jeunes, soit avec les enfants? Ils arrivent, qu'est-ce qui se passe?
Les enfants, ils viennent à la bibliothèque, dans cette médiathèque, depuis 3 ans, depuis son ouverture. Et ils ont déjà leurs habitudes. Donc, quand ils arrivent, déjà, ils sont hyper contents parce qu'ils ont pris le bus, ou alors ils sont venus à vélo, et c'est un vrai événement pour eux dans la journée. Ils arrivent, ils enlèvent leurs chaussures, je les accueille. Donc, il y a toutes ces petites chaussures à l'entrée de la médiathèque. Et après, selon leur classe, en fait, je les accueille soit en demi-groupe. Il y a une bénévole qui s'occupe d'un demi-groupe pendant que moi, je prends l'autre et je leur raconte des histoires, je fais des lectures. Et par exemple, les premières animations à la rentrée, pour les plus grands, j'ai fait une animation autour de Daniel Pénac. Qui était un très mauvais élève. Et en tout cas, il en joue un peu peut-être, mais je pars là-dessus. Et aussi, il a écrit quelque chose, un texte qui s'appelle « Les 10 droits du lecteur », qui vraiment met à l'aise avec la lecture. Donc le premier droit, c'est le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de lire des mauvais livres. Donc voilà, ma première animation de la classe, de l'année avec les plus grands, c'est autour de ça. Savoir quelles sont leurs pratiques de lecture, est-ce qu'ils aiment ça ou pas du tout. Et puis leur relation à l'école aussi, qu'est-ce que c'est qu'être un mauvais élève et est-ce que ça aura un impact sur leur vie plus tard, forcément.
Toi, pour toi, il y a un enjeu à faire un parallèle entre l'école et la bibliothèque?
Là... pas forcément, mais avec cet auteur-là, il en parle beaucoup de sa relation à l'école et les scolaires. Il me semblait pertinent de faire ça pour le premier accueil, en tout cas, des classes. Après, on part sur complètement autre chose. Avec les petits, je parlais de notre relation avec les animaux. Les animaux qui sont nos amis, les animaux proches, domestiques, etc. Voilà, donc on parle de plusieurs sujets différents.
Donc ça veut dire que les lectures que tu fais, tu choisis des lectures autour d'un thème, tu réunis des ouvrages et tu vas raconter à chaque animation autour de thèmes que tu as prédécidés, quoi.
Voilà, et aussi j'ai des instruments de musique, donc je rythme parfois aussi les lectures avec de la musique, je leur fais découvrir des instruments. Voilà. Et on fait des devinettes, des choses comme ça aussi.
Et est-ce que après ces animations-là, les enfants repartent avec des ouvrages?
Oui, il y a un moment. Donc il y a ce moment donc de lecture, d'animation. Et après, ils ont un moment où ils font des choix d'ouvrages, ou alors ils se posent dans un coin avec un livre et leur enseignant les encourage à choisir un livre qu'ils vont rapporter dans la classe.
D'accord.
Et parfois, les enseignants aussi me sollicitent pour animer une séance sur un thème particulier, comme le polar pour enfants, ou des choses comme ça.
Est-ce que tu as l'impression qu'entre ces deux journées types, il y a des porosités? Ça veut dire, est-ce que les enfants que tu accueilles en animation, ça leur facilite le fait de venir à d'autres moments dans la bibliothèque? Est-ce que des gens qui viennent à la bibliothèque se disent « Ah, je pourrais venir avec un groupe ?» Enfin.
Oui, tout à fait, oui. Et les enfants qui viennent, que j'accueille lors des temps scolaires, ils sont très à l'aise à la médiathèque. Et quand ils reviennent avec leurs parents, ils enlèvent leurs chaussures aussi. Et ils se mettent à l'aise, et ils connaissent les lieux, ils montrent des choses à leurs parents. Et parfois, il y a des enseignants qui viennent, sur des temps d'ouverture au public, me solliciter pour des conseils, voilà, pour discuter.
Est-ce que, avant qu'on parle organisation du travail, tu peux nous décrire ton lieu de travail ? À quoi il ressemble ? Est-ce que c'est grand ? Est-ce qu'il y a différents espaces ?
C'est une bibliothèque donc, qui a été construite il y a 3 ans, qui est très lumineuse, très très agréable, avec des grandes baies vitrées, ce qui était un peu gênant parce qu'il y fait très chaud, mais le reste de l'année c'est fantastique. Et c'est un open space, il n'y a pas de séparation. Voilà, et après nous on a nos bureaux en haut avec une salle où on peut déjeuner, faire une pause. Aussi les bénévoles parfois font des réunions en haut, voilà. Et il y a des ordinateurs, on a aussi une sorte de, comme un petit cocon où on peut jouer aux jeux vidéo, voilà. La bibliothèque départementale nous avait prêté une console de jeu, et donc il y a cet espace-là qui est un peu séparé.
Donc ça veut dire que dans la bibliothèque, il y a des livres, des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres supports aussi
On a des films sur DVD et des CD et des livres lus.
D'accord.
Voilà, parfois des expos sur les murs.
Ok. Quel genre d'expos peuvent être installés à la bibliothèque ?
Des expos photos, ou on a exposé un peintre aussi local. Voilà, ça peut être dans le cadre de partenariats aussi ou d'événements. Qui concerne le réseau de lecture en entier.
D'accord. On n'a pas tellement dans notre questionnaire de questions là-dessus, mais comme toi, tu bosses en bibliothèque et que souvent, la représentation qu'on a des bibliothèques, c'est un endroit où il y a des livres et que là, ce que tu nous racontes, c'est autre chose. Mmh. Est-ce que tu peux aussi nous raconter ce qui s'y passe ? Tu disais, il y a un atelier de tricot, un club de tricot, un club de lecture. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités comme ça, ouvertes à tout public ?
Oui, on a un partenariat avec la ludothèque locale. Et donc, on a des jeux en dépôt qui sont accessibles au prêt. Et le ludothécaire de cette ludothèque organise des rencontres pour jouer aux échecs ou des soirées-jeux, des choses comme ça. Et après, on accueille des projections parfois de films. Dans le cadre d'un festival de films documentaires, il y a des intervenants, des concerts, voilà.
Des concerts dans la bibliothèque ?
Oui, des concerts, des spectacles de théâtre.
Il y a une petite salle avec une scène ou...
Pas du tout, mais on réaménage l'espace. En fait, les rayonnages sont sur roulettes, donc on pousse les meubles et on organise un petit espace.
D'accord. Est-ce qu'on fait une petite pause ?
Oui.
Alors, une petite pause.
Les insultes sur ma silhouette, crois pas que je les accepte. Depuis enfant, je les entends, je déteste les gens. J'ai toujours serré les dents, jamais baissé la tête. Laisser qu'on me maltraite pour crever l'écran. Cette vie pleine d'un système qui t'a promis des chaînes et des dizaines de règlements ne va pas changer mes plans. Cette vie pleine d'un système qui t'a promis des chaînes et des dizaines de règlements ne va pas changer mes plans. Je suis taciturne, lassé. Je sais que c'est le temps qui juge, qui ment et qui dit juste. Et mon regard il est glacé. Si c'est sans issue, j'ai rire comme on n'en rit plus. Du pire et du temps fichu avant moi-même d'y passer. Même, quand même, qu'on me maudisse et me condamne, mais que personne ne me dise qu'il faut que je change pour sauver mon âme. Qu'on m'aime, quand même, qu'on me maudisse et me condamne, mais que personne ne me dise qu'il faut que je change pour sauver mon âme. La marche est ma complice, j'adore les miens complices. La marche est ma complice, j'adore les miens complices. La marche est ma complice, j'adore les miens complices. La marche est ma complice, la marche est ma complice. La marche est ma complice, j'adore les miens complices. On ne va pas marcher ensemble. Je n'ai même pas mis la moitié des coups que j'ai cherché à rendre. Quand ils m'ont promis qu'une place était à prendre.
non merci. Sur ma vie, ici je vais tout laisser en cendres. Si t'es libre, c'est toi la cible. Tu seras trempé dans l'acide. Il vaut mieux être lucide. T'as pas ta place dans la Bible. Si t'es libre, c'est toi la cible. Tu seras trempé dans l'acide. Il vaut mieux être lucide. T'as pas ta place dans la Bible. Je suis un bordel et un scandale. Blâmé par mes semblables. Pour me défendre, je mets des coups de tête et des mandales quand je m'emballe. Ma gueule est le problème, c'est leur morale qui le proclame. Ils veulent le contrôle sur mes hormones et mes organes. Hors normes dans leur programme. Je n'aime pas que l'on m'ordonne. Ma bouche a un port d'armes. Je parle, il y a mort d'homme. Hors normes dans leur programme. Je n'aime pas que l'on m'ordonne. Ma bouche a un port d'armes. Je parle, il y a mort d'homme. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice, la marge est ma complice.
D'écouter Asgang, et on précise que la musique a été choisie par toi, Camille. Merci. Et puis là, pour la suite de cette chronique du travail, on va parler organisation du travail. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as de collègues ?
Dans la médiathèque où je travaille, on est 4, une responsable et 3 agents de la médiathèque.
Ok. Et après, tu disais que tu étais dans un réseau. Mmh. De lecture publique. Et là, à l'échelle de ce réseau, il y a combien de bibliothèques et de bibliothécaires ?
Je pense qu'on est une vingtaine de bibliothécaires salariés.
Et combien de bibliothèques ou de médiathèques ?
Peut-être 16 ou 17.
D'accord.
Ouais, c'est...
Okay. Donc, en moyenne, ça veut dire une personne salariée par site avec des bénévoles autour. Est-ce que ça revient à peu près à ça ?
Oui et non. Non, pas vraiment. En fait, il y a plusieurs... T'as des têtes de réseau où t'as plus de collègues et après, les petites médiathèques qui fonctionnent avec un bénévole.
D'accord. Par exemple, là, quand tu dis on est 4, mais ouais. Vous n'êtes pas 4 temps plein à la... dans ton...
Non,
dans... sur ton site.
Il y a 3 temps plein, et moi.
D'accord.
À mi-temps.
Est-ce que tu peux nous dire un peu qui fait ce travail en général ? Le genre des personnes qui font ce travail, leur âge, leur provenance sociale ?
C'est un travail très féminin. Je pense que... Enfin, dans la médiathèque où j'exerce, il y a un homme. Mais dans le réseau, ils sont peut-être 3 ou 4. Voilà, pour le reste de femmes. On a tous à peu près le même âge, entre 40 et 50 ans. Voilà. Après, dans le réseau, il y a des gens plus âgés, des gens plus jeunes, mais le gros se situe dans cette tranche d'âge.
Et la plupart de tes collègues font ce travail depuis longtemps ?
Oui, oui. Mmh.
D'accord. Depuis toujours, pour certaines ?
Oui, pour une de mes collègues, oui. Oui, ça fait 20 ans qu'elle exerce.
Et donc, il y a cette équipe salariée et puis il y a des bénévoles. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu qui sont les bénévoles des bibliothèques ?
Alors, les bénévoles des bibliothèques sont souvent des femmes retraitées. D'accord. Enfin, en tout cas dans notre réseau. Voilà.
Et est-ce que pour toi, il y a des lignes, genre quel était leur travail dans la vie professionnelle ?
Alors, on a une infirmière, d'ailleurs, qui n'est pas à la retraite, qui vient nous aider parfois le samedi et qu'enchaîne après sur sa garde. D'accord. Donc, elle vient plusieurs heures et après, elle va travailler. Mais il y a plusieurs bénévoles qui viennent du secteur médical. Et une ancienne enseignante, et après, je ne sais pas exactement.
Okay. Globalement, quels sont tes rapports avec tes collègues ?
Ils sont très bons.
Est-ce que vous avez des endroits pour vous retrouver ? Est-ce qu'il y a des salles de réunion, des endroits pour prendre des pauses ?
Oui, on a un bureau donc où on est tous ensemble. Et à côté, on a une salle avec une bouilloire, un four, etc. où on déjeune le midi.
D'accord. Donc en général, vous avez du temps et des espaces pour parler, oui. Échanger. Et y compris à l'échelle du réseau ?
Non, là, c'est plus compliqué. On se retrouve dans une des médiathèques. En fait, les réunions, on a des groupes d'acquisition, par exemple. Chaque bibliothécaire fait partie d'un groupe d'acquisition pour un domaine.
Il faut que tu nous dises ce que c'est, oui. Des acquisitions pour un domaine.
Chaque bibliothécaire a en charge l'achat de certains ouvrages, certains types d'ouvrages. Par exemple, moi, je m'occupe de certains ouvrages jeunesse. Voilà. Après, on a des réunions donc, entre groupes, groupes jeunesse, groupes documentaires, etc. Et là, on va dans une des médiathèques du réseau. Ça change.
Parce que vous décidez ensemble de ce que vous allez acheter comme livre
ou comme non, film mais, ou comme... Non, mais on a besoin de se retrouver pour prendre des nouvelles et pour un petit peu faire le point sur des choses. Mais après, les achats se font un petit peu chacune de son côté.
Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que ces rencontres elles ont une vocation beaucoup plus humaine et de travailler en collectif que technique.
Oui, à vocation humaine, mais ça fait avancer notre travail concrètement.
Bien sûr.
Ouais, oui.
Ok. Comment ça s'organise la hiérarchie dans ta bibliothèque ?
Alors, j'ai une responsable directe, qui est responsable de la médiathèque, qui elle-même a une responsable, qui est responsable du réseau de lecture dans sa globalité. Donc, elle est responsable de toutes les médiathèques du réseau. Voilà.
D'accord. Là, toi, tu travailles dans la fonction publique, donc il y a des catégories.
Oui.
Genre, toi, t'es catégorie quoi ?
Mon poste, c'est un poste de catégorie C.
C, c'est le plus bas ou le
oui,
plus haut ?
C'est le plus bas.
Plus bas. Mmh. Et ta chef, elle est B, C, D ?
Elle est B.
A et B.
B, B.
Et la chef du réseau est...
Je pense qu'elle est B aussi, mais je ne suis pas sûre, je ne sais pas.
Et après, tous ces gens sont sous la responsabilité des élus, c'est ça ?
Oui.
Ok. Et donc là, une intercommunalité.
Mmh.
Donc ça veut dire que plusieurs élus de plusieurs communes se réunissent et sont vos employeurs ?
Non, et on a un élu à la culture qui est désigné et c'est lui qui est notre élu de référence.
D'accord. Oui, donc il n'y a pas tout plein d'élus qui passent vous voir avec des demandes complètement contradictoires. Ou...
Non. Puis il y a un DGS, j'imagine.
Oui.
Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est qu'un DGS ?
Un directeur général des services dans toutes les collectivités territoriales et c'est lui qui gère en général le personnel d'une collectivité et notamment d'une intercom.
Okay.
Moi, je voulais demander sur ces rapports de hiérarchie, est-ce que ces différents statuts entre fonctionnaires intégrés, contractuels et bénévoles, est-ce que ces différents statuts impliquent une hiérarchie ?
Entre fonctionnaires et contractuels, j'ai pas l'impression pour l'instant. Après, je suis pas là depuis très longtemps. Mmh. Et je pense que pour faire son trou, etc., il faut vraiment passer par la case fonctionnaire, quoi. Il faut, par la case concours. Après, les bénévoles ont quand même un statut à part. On essaye de leur... Enfin, je pense que la politique de la médiathèque où je suis, c'est de leur faire vraiment une place de choix. Et que c'est... les rendre acteurs de, c'est leur médiathèque, et donc leur donner des responsabilités et les rendre un peu acteurs de l'endroit et de l'autonomie, tout à fait. Après, on ne leur demande pas non plus la même chose qu'un salarié, oui. Heureusement.
Je peux rebondir. Quand tu dis « faire mon trou », il faut passer par le concours, la fonction publique. Mmh. Quand tu dis « faire mon trou », c'est avoir une reconnaissance, c'est avoir plus de largeur pour ton autonomie.
Je pense que c'est pour évoluer plus dans mon poste et pour pouvoir rester longtemps.
Parce que là, t'as un contrat court, quoi.
J'ai un contrat d'un an, donc en septembre prochain, je D'accord. peux ne pas être reconduite. Oui.
Est-ce que dans ton travail, tu es évaluée ?
Je suis évaluée, mais j'ai échappé à l'évaluation de cette année, car je suis arrivée au mois de mai et l'évaluation annuelle avait lieu au mois de juillet. Et avec ma responsable, on s'est mis d'accord pour ne pas la faire. On s'est dit qu'on la ferait un peu plus tard.
Mais est-ce que tu sais à quoi ça ressemble, l'évaluation dans ta boîte ?
Oui, j'ai vu passer les fiches d'évaluation.
À quoi
Après, c'est assez bateau. C'est des objectifs qui sont fixés en accord avec, en accord entre le salarié et la responsable. Et j'ai l'impression que chaque année, en fait, on fait un petit point sur les objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints.
Et tu peux nous donner un exemple d'objectif ? Ça pourrait être quoi, par exemple ?
Par exemple, un objectif de formation sur des nouveaux outils ou des choses très concrètes qui dépendent d'un événement culturel que quelqu'un va porter plus que les autres.
Mettre en place un festival de je ne sais pas quoi.
Oui. D'accord. Mmh.
Okay. Et qui évalue ?
La responsable directe qui elle-même est évaluée par sa responsable.
D'accord.
Est-ce qu'il y a des sanctions ou des récompenses si ces objectifs sont atteints ou non ?
J'ai pas eu l'impression, mais je verrai ça l'année prochaine, si je le fais, ouais. Je crois pas.
Toi, t'as l'impression que c'est plus comme un guide de tâches oui. à réaliser dans le courant de l'année, quoi.
Oui, oui, tout à fait.
Ok. Et toi, tes missions, tes tâches à réaliser chaque jour sont différentes de tes autres collègues. Toi, tu dis, par exemple, dans ton travail, tu fais du service, t'es tout le temps avec le public. Soit en animation, soit en accueil. Mais dans le travail de bibliothécaire, il y a toute une partie aussi de préparer les livres. Mmh. Ça, tu ne fais pas du tout, toi.
Et non, je n'ai pas le temps, en fait. J'ai été vraiment embauchée pour le service public et l'accueil des groupes. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais concrètement, je n'ai pas le temps. Donc, c'est mes collègues qui se chargent du catalogage.
Catalogage ?
Le catalogage, quand on reçoit, on acquiert des documents et après il faut les classer quelque part dans la bibliothèque pour qu'on puisse les retrouver facilement. Et donc ils s'occupent de ça, les rentrer dans la base de données, dans le logiciel de gestion. Et aussi de l'équipement. L'équipement, j'aimerais bien en faire plus.
L'équipement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire préparer les livres avant leur mise en rayon. Donc. Mettre la cote, les couvrir, etc. Voilà.
Et toi, tu fais pas ça parce que t'es contractuelle ou tu...
Non, je fais pourquoi pas ça parce que j'ai pas été embauchée pour ça, en fait. Mon poste, d'accord. C'est vraiment un poste de service public.
Mais est-ce que tu penses qu'ils ont y a un intérêt dans la bibliothèque à ce que ces tâches soient portées par des personnes qui sont là de façon plus pérenne ou non ? Pas forcément ?
Non.
Ok. Est-ce que toi, t'as des responsabilités ? T'as l'impression d'avoir des responsabilités dans la bibliothèque, des trucs qui t'incombent à toi personnellement.
L'acquisition de certains documents. Donc, je me dois de faire une veille auprès des éditeurs, des sites de critiques de livres, etc. Donc, sur certains documents avant de les acheter. Et puis après, les animations auprès du public. Je sens que c'est vraiment ma responsabilité, oui. Et j'ai vraiment toute... l'attitude pour faire ce que je veux, en fait.
Donc toi, là, t'as complètement une marge de manœuvre super importante là-dessus.
Oui, j'ai carte blanche sur les animations que je veux mener, ouais.
Est-ce qu'il y a quand même des endroits où t'en parles avec tes collègues, vous échangez sur ce que tu vas faire ?
Ouais. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de... J'ai pas de contraintes de ce côté-là.
Est-ce qu'il y a des objectifs en termes de service public, de lecture publique, de nombre d'usagers à atteindre? Est-ce que un site comme le tien, vous vous dites, c'est viable à partir du moment où il y a tant d'usagers? Est-ce que...
Non, je pense pas que ce soit formulé comme ça.
D'accord.
Après, on a des statistiques qui nous permettent de voir ce qui s'est passé sur l'année, si on a perdu des lecteurs, si on en a gagné, leurs pratiques, est-ce qu'ils empruntent beaucoup, est-ce que... Voilà. Mais je pense pas qu'il y ait
De notion de rentabilité, de notion de rentabilité dans ce service public, dans la lecture publique. Mmh. Ok.
Mais par contre, chaque année, il y a une évaluation du fonctionnement de la bibliothèque. Et est-ce que ça, ça donne lieu à des coups de pression des élus ou des responsables de la bibliothèque?
Peut-être, mais c'est pas du tout à mon niveau, en fait. Là, ça se passe.
D'accord. Toi, tu ressens pas du tout ça, quoi. Est-ce que tu as l'impression, est-ce qu'il y a des outils, c'est quoi tes outils de travail, toi, en tant que bibliothécaire?
Mes outils de travail, c'est le logiciel de gestion de la bibliothèque, voilà, qui gère les comptes des lecteurs, qui nous donne accès au catalogue des documents qu'on a, voilà. Après, j'ai des outils d'animation qui sont soit à nous, soit qui nous sont prêtés par la bibliothèque départementale.
Ça veut dire qu'il y a une bibliothèque qui prête des bouquins aux bibliothèques.
Tout à fait, qui permet de renouveler les fonds tous les deux mois. On va faire des échanges à la bibliothèque départementale. Ils nous ont prêté une super malle d'instruments de musique qui m'a beaucoup servi. C'est eux qui nous ont prêté les jeux vidéo et la console. Ils nous ont prêté un casque de réalité virtuelle aussi. Ça permet d'amener vraiment un public très divers à la médiathèque aussi.
Ça, c'est une géante bibliothèque où tu prends ce que tu veux.
Ouais, c'est un peu un gros magasin de bonbons. Quand on y va, on est très content.
Waouh. Ok. Donc, ça, c'est un autre outil de travail. T'as l'impression qu'il y a du vocabulaire spécifique, des mots que si tu connais pas, tu comprends pas tes collègues?
Oui, il y a un jargon, comme dans tous les métiers. Par exemple, on parle de désherbage quand on retire certains documents de notre collection, parce que soit ils sont obsolètes ou abîmés. Voilà, donc on désherbe de temps en temps. On procède au récollement aussi, ça veut dire qu'on essaye de voir quels documents on a, ou si on les retrouve, s'ils sont bien rangés, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme...
Des fois, on entend parler de pilon.
Ah oui, ouais. Bah, quand on désherbe, parfois, on envoie certains documents au pilon, c'est-à-dire qu'on les sort de la collection, et soit on les met dans des boîtes à livres, ou on les donne à des assos, ça dépend. Et aussi, on parle de public captif, qui n'est pas un très joli terme pour parler des gens qui viennent à la médiathèque sans avoir eu le choix. Par exemple, les scolaires, c'est un public captif.
On n'aurait pas dit mieux. Ok. Qu'est-ce qui favorise ton travail, toi, au quotidien?
Ce qui favorise mon travail.
Que tu fasses ton travail comme tu penses que c'est chouette de le faire.
Le temps, j'ai le temps pour préparer mes animations. Après, parfois, je prends un peu de temps chez moi aussi pour le faire, mais concrètement, quand même, j'ai le temps dans la semaine de préparer mon travail. La liberté qu'on me laisse aussi. Et les échanges avec mes collègues qui sont très riches, et avec les lecteurs aussi. Voilà. Ça favorise... j'apprends plein de choses tout le temps, et après je peux transmettre et passer à quelqu'un d'autre.
Ok. Et au contraire, qu'est-ce qui est vraiment un frein à faire ton taf comme tu le souhaiterais?
Alors pour l'instant, le frein pour moi, c'est le contrôle du pass sanitaire, voilà, qui devient pass vaccinal depuis hier. Je ne sais plus qui est devenu.
Pas encore, mais, pas encore, c'est mais en cours.
En cours, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui remet en question la nature même de mon travail. Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi pourquoi, comment ça se traduit dans le quotidien, quoi?
Eh ben, depuis le mois d'août, notre hiérarchie nous a demandé donc de procéder au contrôle du pass de chaque lecteur qui entre dans la médiathèque. Et après, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire pour nous parce que c'est vraiment contraire aux missions d'accueil des médiathèques. C'est contraire à la définition même de ce qu'est une médiathèque.
Ce serait quoi la définition pour toi? Est-ce que c'est une médiathèque dans ces cas-là?
Pour moi, c'est pas un havre, mais c'est un peu, c'est un, vraiment un endroit où c'est un des seuls services publics où on rentre, on nous demande rien, on vient faire ce qu'on veut y faire, si on veut, si on sent mauvais et qu'on veut lire Spirou toute la journée, on a le droit. C'est un lieu d'accueil pour tous et. Voilà, et pour tous. Et là, la mise en place du contrôle du pass, c'est loin d'être pour tous. Voilà, ça exclut plein de gens. Et ça, c'est très compliqué. Voilà.
Et dans votre bibliothèque, comment ça se traduit concrètement? C'est-à-dire que quelqu'un est à la porte?
Non, non, on est à la banque de presse, où on est deux. Et un procède au contrôle du pass. Après, c'est un peu mou comme contrôle. Et moi, j'arrive pas à le faire, donc souvent, c'est quand je suis avec une collègue, c'est ma collègue qui le fait si elle a envie de le faire, mais moi, je le fais pas, et quand je suis seule, je le fais pas. Parfois, les gens entrent dans la médiathèque en sortant directement leur passe. Et là, je scanne avec les yeux et je leur dis c'est bon, voilà. Mais sinon, je demande rien. Et je suis censée demander, voilà. Et j'ai des collègues qui ont été contrôlés pour voir si c'était bien en place.
Contrôlés par qui?
Par quelqu'un de l'intercommunalité qui est...
Et donc, voilà, qui vient vérifier le nombre de passes qui ont été scannés dans la journée ou...
Non, il vient... Pardon. Ouais. Il vient vérifier le pass des agents qui sont en train de travailler. Voilà, et je pense qu'il jette un œil, effectivement, savoir s'il y a un lecteur qui est entré en même temps, est-ce qu'on lui a demandé son passe. Voilà.
D'accord.
Mais lui-même n'a pas le droit de contrôler le passe des lecteurs qui sont là.
Mais vous, oui.
Oui.
Et à partir de 12 ans.
Oui, après, je connais aucun collègue qui n'a rien demandé à un enfant pendant toute cette période, quoi. Je pense que c'était vraiment la limite.
Ok. On fait une petite pause?
Oui.
Ensemble, mais si tout le monde en parle, nous invite, on va trouver une cause. Car pour nous, à ce moment, ça sera intéressant. En ce moment, aucune cause est intéressante pour nous, voilà, clair, ensemble. Mais si tout le monde en parle, nous invite, on va trouver une cause. Car pour nous, à ce moment, ça sera. Dab, tu connais about it. Feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it. Dab, tu connais about it. Feel it.
Mais deux fois, jamais aller non. Toujours penser que j'étais pas assez bon. J'frappe sur la table comme un sacré bombe. À ton body, y'a du vino pis des salaisons. Fais fondre le gold dans un caquelon. Catch-moi à la maison avec un sac long. Le sel de A-High from the Alamon. Ils m'ont dit, maybe t'es un wild one. Aucun mensonge à la haut, que m'en bon. Avec ça, qu'est-ce que j'ai rempli de fond de pince cette année? Hey, tellement de mentions, j'ai la presse au caleçon. Et le froc déchiré, j'suis tanné. Hey, tu vas nous voir à télé. Hey, si t'as encore une télé. Wait. On n'est pas la recette vedette de ta tante de l'été, tu peux pas nous déléter.
Low, sur le dos, d'un crocodile ou un autre reptile.
Real.
Yo, bro, quand ça critique, nous c'est comme ça qu'on feel.
Fuck it, on va m'appeler. Le plafond sur le toit, on va se promener.
Promise.
Le bel air de belles fleurs échappe et demande à nos rêves si tu ne crois pas. Gros stack de boîtes de carton, direct sur la banquette arrière.
Place et fonce.
Creuse en main nue dans le jardin. Dig, tu peux appeler ça une carrière.
Yeah.
On est des gars corrects, mais là en tout respect, le gros ta femme d'ailleurs. De quoi avec à l'eau bar, envoie des nouvelles, oh yeah. Ça c'est pas du niveau, c'est du niveau. Bang ça, cop ça, ça c'est pas du
niveau. Dab to call me about it. Feel it, feel it, feel it, feel it, feel it.
Et on pense qu'on a gagné un Phoenix. Let's get it on, casse la Magic Phoenix.
Feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it.
Yeah, 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 yeah. On va jamais go back avant de jouer sur le coin pour payer nos loyers. Non,
pourquoi pas?
Tout le monde mange sur ce rap, no lies. Soit des gummies, soit des salades. Non. L'argent est réel, pas besoin d'en exposer dans nos vidéoclips. Les ice over des chin check, j'entends rien, je donne un numéro à mon fiscaliste. On paye pour des views, on paye pour des choses ou des bouteilles de couvoise. Tu veux être une vedette, nouveau Drake, ben Migos, couvoise. Le game est réel, ils vont te manger d'une bouche et tu veux jamais voir le dos circuler. Le game est réel, on est venu ici pour prendre un papier, y'a rien à voir circuler.
Les rappeurs se déchirent le périnée, assis sur le guidon de mon BMX. Qu'est-ce que le gros, tu crois que j'ai la vie rêvée? Je suis criminel selon mon DNA. Vilaine de façon, je suis mon pire ennemi. Ils disent que j'ai la plume qui pourrit l'esprit. Je suis là, je suis ici pour y rester. C'est la peine dans la rue qui nous reste. Coup de pied dans ta gueule, version GSP. Quand la YM traite pour les chienneries. On a trop fait fumer Félix, il est reparti du tapis rouge pour aller siester. Marie met en ballon pour la fiesta. En Karine Van Asso, brossé pas du cinéma. Y'avait de la coke dans les yeux, y'avait de l'héro dans le sang. Et de la sauce à spaghette sur son gilet propre.
On va sauter partout sur la scène.
Parce qu'on se fait tatouer sur la zide. Ils ont voulu me couper la tête, mais le vent a tourné, donc j'ai joué la suite.
Écrasons les coques. Non, je ne suis pas politiquement correct.
Oups.
Mon chien vient de chier chez Dominique Moret.
Hey,
c'est,
ça, ça a pas de sens.
Dab, tu connais pas. Feel it, feel it, feel it, feel it.
Et on pense qu'on a gagné un Phoenix. Let's get on, comme ça, même Music Phoenix.
Feel it, 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 feel it. Dab, tu connais pas.
Et c'est toujours Canal Sud, la chronique travail. On est avec Camille qui est bibliothécaire en milieu rural. On vient d'écouter À la claire ensemble, FLX et des Québécois. Et c'est Camille qui a choisi, merci. Et donc, on a parlé un peu déjà de ton travail. On a complètement zappé de parler de combien tu gagnes. Parce que tu nous as fait un peu rêver sur certains trucs, un peu flipper sur d'autres. Mais on ne sait pas combien que ça ramasse d'être bibliothécaire.
Ben, ça ramasse pas beaucoup. Là, j'ai gagné le mois dernier 694 euros. Mais je suis à mi-temps.
D'accord. Voilà. Donc, à plein temps, ça fait un petit SMIC à peine amélioré, quoi.
Ça fait 1004, ouais.
Ouais, quand même. Un peu plus amélioré, mais ok. Ouais, pas foufou, quoi. Mais là, on va reprendre où on en était, c'est-à-dire au moment où tu vas nous dire une jolie loose et... Et une super chouette, un super chouette moment dans ton travail.
Donc, ouais, après, c'est pas cher payé, mais c'est vraiment plaisant comme travail. Et les moments chouettes, il y en a pas mal. Bah, quand les enfants, par exemple, reviennent avec leurs parents et qu'ils enlèvent leurs chaussures et qu'ils vont comme si j'étais chez... C'est la maison, quoi. Ça, c'est j'adore. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme moment chouette? Oui, un jour, il y a un papa qui a fait un cache-cache aussi avec sa fille dans la médiathèque. Un samedi matin, ils étaient tous les deux et tranquille, quoi. C'était cool, voilà. Et les moments de loose sont liés pas mal au pass sanitaire, en fait. En tout cas, aux restrictions qui ont été mises en place cet été. Par exemple, pendant l'été, j'ai une dame qui m'a appelée, une dame âgée, qui m'a appelée, en fait, elle m'a demandé... si elle avait le droit de venir à la médiathèque. Elle savait plus si elle avait le droit de venir à la médiathèque, en fait. C'est comme ça qu'elle l'a formulé. Ça, c'était un gros moment de loose. Et
est-ce
quoi
qu'il... Oui. Est-ce qu'il y a des altercations, parfois, à la porte, ou des moments un peu tendus?
Pas des altercations, mais cet été, on a eu des... C'est un public quand même assez facile qui fréquente notre médiathèque. Voilà, c'est facile, des gens, c'est des gens qui vont bien généralement, tu vois. Et là, cet été, on a eu des lecteurs qui ont pleuré à la banque de prêt. C'était compliqué, ouais. Il y a eu des moments où les... Enfin, je pense que tout le monde a un peu paniqué, peut-être, sur certaines choses. Et il y a des gens qui étaient vraiment tristes à l'idée de plus pouvoir entrer dans la médiathèque, ouais. Parce que c'est quand même ça qui se passe. Et, ah ouais, un autre moment de l'ose aussi, c'est quand... et qui se répète. Voilà, c'est une situation qui devient banale, en fait. C'est quand les parents amènent les enfants à la médiathèque. Les enfants rentrent dans la médiathèque. Et les parents restent dehors. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Pardon. Et maintenant, parfois, on a des enfants tout petits, genre 5-6 ans, qui sont à la médiathèque tout seuls et leurs parents sont derrière les vitres. Excuse-moi, faut que je tousse.
Pas de souci. Ouais, et ça, c'est les conséquences directes du pass sanitaire, quoi.
Et oui, donc on accompagne les enfants au mieux et ça va, on essaie de rendre ça marrant, quoi. Ça les rend autonomes, on les accompagne au mieux, mais c'est plus du tout le moment de partage que ça pouvait être. Il y a plus ce bon moment, la médiathèque en famille.
Pourquoi est-ce que toi, tu fais ce taf plutôt qu'un autre ?
Parce que ça réunit beaucoup d'intérêt personnel, en fait. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les livres. Ça a toujours été une source de réconfort ou de vraiment de bien-être pour moi. Et ma formation première, c'était en reliure. J'aime l'objet aussi, livre. Et j'ai toujours tourné autour de ce travail, j'ai l'impression, tu vois, autant dans un peu autour de ce travail et du travail social, mais sans jamais y aller. Et en fait, c'est en arrivant en milieu rural que je me suis rendu compte de l'importance de ce métier. Donc j'ai pu envisager l'exercer et ça donne un accès à la culture qui est très précieux en milieu rural où il n'y a pas beaucoup d'offres culturelles. Excuse-moi, je ne sais plus la question que tu m'as posée.
Pourquoi tu fais ça plutôt qu'à l'heure ?
Et aussi participer à offrir des outils d'émancipation. Je trouve ça fantastique, en fait, comme métier. Ça, j'adore.
Voilà. Est-ce que ce boulot, il est compatible avec ton entourage ? Est-ce qu'il te colle une charge mentale de malade ?
Pas vraiment. Honnêtement, c'est un des métiers les moins pénibles que j'ai eu à exercer dans ma vie.
Combien de temps tu penses que tu vas le faire, du coup ? T'as l'impression que tu pourrais continuer tranquille comme ça ou...
Je sais pas, parce que j'ai changé assez souvent de métier. Après, celui-là, il réunit quand même plein de bonnes choses. Et j'ai envie de progresser et d'être une meilleure bibliothécaire, d'apprendre encore beaucoup de choses là-dessus. Mais je sais pas, je verrai. J'ai envie de l'exercer et peut-être trouver un poste avec plus d'heures. Parce que je trouve que c'est compliqué de faire mon travail avec si peu d'heures, en fait. Parfois, il y a des... Parfois, j'ai 5 jours entre mes jours de travail. Je ne sais pas si c'est clair.
Ouais.
Et je me demande si je travaille encore ou si je suis en vacances. Ou j'ai du mal à me projeter, à suivre, par exemple, les infos qui passent par email, etc. Tu vois ?
Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi, tu nous en as déjà un peu parlé, mais c'est quoi pour toi les enjeux autour de staff politiques, sociaux, écologiques, toutes sortes d'affaires que tu t'associerais pour toi à ton taf ou des choses qui sont importantes pour toi autour de ce travail ?
Pour moi, il y a une dimension sociale qui est très importante et qui va sûrement être amenée à se développer, j'imagine, dans le futur. Je sais qu'il y a plusieurs départements, en tout cas, qui axent leur politique de lecture publique, qui en tout cas, qui la dirigent vers vers le travail social. C'est pas exactement ça que je veux dire, mais en tout cas qui initie des partenariats entre les acteurs sociaux et les bibliothèques.
Pour que les bibliothèques soient plus accessibles aux galériens, galériennes, par exemple, ou...
Oui, mais qu'elles soient vraiment d'une part, tout à fait, mais aussi qu'elles travaillent main dans la main avec, par exemple, les maisons des solidarités. Tu vois, pratiquement, les bibliothécaires de la bibliothèque départementale de Haute-Garonne ont préparé des petits sacs à dos pour les éducatrices qui font des rencontres médiatisées, tu vois, entre parents et enfants, avec dans ce petit sac, t'as une tablette, des livres, un instrument de musique, plein de choses. Donc vraiment que les partenaires du département travaillent ensemble.
Ok.
Voilà. Et ça, je pense que ça a amené à se développer. Enfin, j'imagine que c'est un peu ce vers quoi vont tendre les bibliothèques.
Ok. Et il nous reste quelques minutes, et du coup, peut-être on enchaîne sur c'était quoi les luttes qu'il y a eu récemment dans ton taf, auxquelles tu as participé ou pas. Mais est-ce que tu veux nous en dire quelques mots?
Suite à l'annonce du contrôle du pass sanitaire, il y a eu effectivement on a posé une demi-journée de grève. Et les bibliothécaires du réseau se sont placés devant les bureaux de l'intercommunalité.
Donc ça, c'était voilà. À quel moment ?
Ça, c'était au mois d'août, je crois. Oui, c'est ça, c'était cet été. Pour alerter un petit peu sur ce que ça allait... Enfin, sur l'impact que ça allait avoir sur le lectorat, sur la population. Voilà, après, c'est assez compliqué de fédérer et de s'organiser. Il y a plusieurs bibliothèques en France qui ont été assez actives là-dessus. Il y a des sites de bibliothécaires qui proposent des outils, par exemple un kit du gréviste ou des affiches, des tracts... en soutien aux bibliothécaires qui s'opposent au contrôle du pass.
Mais vous, concrètement, vous avez fait une demi-journée de grève dans ton réseau de bibliothèques, c'est
oui.
Ça ?
Oui, 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 tout à fait.
Et après, est-ce qu'il y a des gens qui ont été mis à pied dans ton réseau ? Est-ce qu'il y a des gens qui résistent au contrôle des passes ? Comment ça s'organise ?
Oui, je pense qu'on est plusieurs à résister au contrôle du pass.
C'est-à-dire pas le faire, mais sans l'annoncer ?
C'est ça, ouais. Okay. Après, il y a vraiment un problème dans la communication. Il n'y a pas de communication, ou très peu, avec les lecteurs, parce qu'on dépend de la fonction publique aussi. On a un devoir de réserve, un devoir de neutralité, et c'est très compliqué d'expliquer aux lecteurs qu'on est contre ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Et oui, il y a des collègues qui ont été mis à pied... une responsable de médiathèque qui a depuis réintégré sa médiathèque. Mais il y a des collègues qui sont mis en arrêt maladie.
Pour ne pas contrôler, oui. Ou pour ne pas avoir à eux-mêmes présenté pour eux de passe ou...
Non, pour ne pas contrôler surtout. Oui.
Ok. Et globalement, est-ce que tu as un peu... idée de comment s'est passée la lutte dans d'autres endroits qui auraient été un peu... partie prenante plus fort de la lutte.
Je sais qu'à Grenoble, les collègues étaient vraiment bien organisés et que eux résistent vraiment, j'ai l'impression. Voilà, il y a certaines bibliothèques parisiennes aussi qui suivent les grèves nationales. Il y a ce site qui répertorie par exemple les bibliothèques qui ne demandent pas le pass. Aux enfants. Il y a des communes qui se sont vraiment positionnées en disant qu'ils n'allaient pas faire ça. Voilà, après, j'ai l'impression que c'est compliqué, que c'est pas une lutte très suivie, en fait, qui est pas médiatisée, et peut-être que... À tes souhaits. Peut-être que si... si on s'associait à d'autres acteurs culturels, ça pourrait avoir un petit peu plus d'impact.
Tu penses à quel genre d'acteurs culturels ?
Alors, je ne sais pas, les théâtres, les salles de concert qui sont aussi impactées fortement.
Ok. Mm. Eh ben, est-ce que pour terminer, peut-être une ultime question avant que d'en finir avec cette émission, c'est quoi la suite pour toi ? Est-ce que tu vas continuer à être bibliothécaire dans cet endroit ? Est-ce que...
Au moins jusqu'au mois de septembre prochain, oui. Tout à fait, et après on verra.
Ok. Merci.
Merci.
Vas-y.
C'est quoi, d'après toi, le métier de bibliothécaire, dans 10 ans, il ressemble à quoi ?
Il ressemble à quoi ? Il s'approche peut-être encore un peu plus du travail social. J'espère.
Merci Camille.
Merci.
Merci.
V'là le temps où les bourgeois, le soir, vont plaindre les pauvres au coin du feu après dîner. V'là le temps où dans la presse, en train ou de lancement de putain, on va redécouvrir la détresse, la purée et les purs au teint. Les journaux, même ceux qui ont de la guigne, vont être pleins d'appels larmoyants, pleins de sanglots à trois sous la ligne. Ce qui va s'en évader des larmes, en couler de la pitié. Plein de les pauvres, c'est comme vendre ses charmes, c'est un vrai commerce, un métier. On n'est pas muf en France, on ne s'occupe que des malheureux. Et boum, la bienfaisance bat le tambour sur les ventres creux. L'hiver, les murs sont pleins d'affiches pour fêtes de charité. Car pour nous secourir le monde riche, faut qu'il gambille à notre santé. Grâce à la misère, on rigole pendant la saison. Faut qu'ils vivent les rastaquaires et faut bien qu'ils redorent leur blason. Ceux de la politique, ils se gagnent une popularité. Pour ça, le moyen le plus pratique, c'est de chialer sur la pauvreté. Moi, je me dirais, tiens, y'a du bon. Le jour où je verrai socialistes et royalistes tomber de faim dans le palais Bourbon. Merde, v'là l'hiver et ses duretés. 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 Car tout le monde parle de pauvreté, d'une manière magnifique et ample. Vrai de vrai, y'a de quoi en rôter. Mais personne veut prêcher d'exemple. Ainsi regardez les employés, ceux de l'assistance évidemment, qui n'assistent qu'aux enterrements des pauvres qui paient pas leur loyer. Puis contemplons les artistes, peintres, poètes ou écrivains. Car ceux qui font des sujets tristes nagent dans la gloire et les bons vins. Pour eux les pauvres c'est une bad chose, un filon, une mine à boulot. Ça se met en drame, en vers, en prose, et ça fait faire de chouettes tableaux. Oui j'ai remarqué mais j'ai peut-être tort, ceux qui se font nos interprètes en geignant sur notre triste sort, se retirent tous après fortune faite. Ainsi tenez en littérature, nous avons notre Victor Hugo qui a tiré des mendigots, de quoi caser sa progéniture. En peinture, y'a un troupeau qui gagne la forte somme à nous peindre plus top que nous sommes. Les poux aussi vivent de notre peau. L'en faut des pauvres, c'est nécessaire, tout un chacun s'exerce. S'il n'y avait plus de misère, ça pourrait bien ruiner le commerce. Mais je vais vous dire mon sentiment, c'est trop d'hypocrisie. Plein de les pauvres, assurément, ça rapporte plus que la poésie. Merde, l'hiver et c'est dur, t'es. Merde, l'hiver et c'est dur, t'es. je le prouve, c'est du pain assuré. Et quant aux pauvres, ils n'ont qu'à se taire. Jour où il y en aurait plus sur terre, bien des gens seraient dans la purée, soit. Mais moi je vais sortir de mon antre avec le cœur et l'estomac, plein de soupirs et de fumée de tabac. Pas de quoi faire la danse du ventre, j'en ai soupé de ne pas briefer, d'être de ceux à ses pantoufles pour infuser dans la mistouffe. Quand y'a des moyens de surpiffer, y'a trop longtemps que je me balade, la nuit, le jour, sans toi, sans rien. L'excès même de marmelade a fait se trotter mon ange gardien. Et donc tout seul je lève mon drapeau, va falloir tâcher d'être sincère en disant le vrai coup de la misère. Au moins j'aurais payé de ma peau, souffrant pire que les malheureux, parce que plus sensible et nerveux, je peux pas me faire à supporter mes douleurs et ma pauvreté. Oh, ce ne sera pas comme les vidés qui, bien nourris, parlent de nos locs. Faut que j'écrive mes soliloques, moi aussi j'en ai décidé. Je veux plus être désécrasé de la société contemporaine. Je vais dire les mots, les pleurs, les haines, ce qui s'appelle civilisé. Et qu'on me tue ou que j'aille en prison, je m'en fous. Je ne connais plus de contraintes. Je suis l'homme moderne qui pousse sa plainte. Et vous savez bien que j'ai raison. Et vous savez bien que j'ai raison.